Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Nous allons parler maintenant donc du sujet que j'ai eu à cœur. Et donc j'aimerais lire un verset situé dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, frères et sœurs. Vous allez bien? Ça se voit. Et ça fait plaisir. Et si vous n'allez pas bien, c'est signe que vous êtes comme tout le monde. Ne commencez pas à vous dire, voilà, je suis quelqu'un d'anormal. Non, bienvenue au club. Il y a des moments où je vais pas bien. Il y a des moments où tu vas pas bien. Ben, on est sur la terre. Et on est à la fois assis dans les lieux célestes, comme notre frère nous a dit. Et c'est normal d'avoir des problèmes. Je dis même souvent que j'ai plus de problèmes depuis que je connais Dieu, j'ai plus de problèmes qu'avant. Alors c'est pas les mêmes, mais j'en ai davantage. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu éclaire ma vie. Le Saint-Esprit éclaire ma vie. Et voyons, nous voyons ça, regardez, il y a eu le soleil aujourd'hui. Quand il pénètre chez vous en été, le soleil, ou au printemps, qu'est-ce que vous voyez dans votre maison? Elle pénètre chez vous, la lumière. Oui, quelqu'un l'a dit? La poussière. Le printemps, c'est le temps des grands nettoyages. Alors, le Seigneur éclaire de plus en plus ma vie, et de plus en plus je vois l'étoile d'araignée, la poussière et tout ce que je dois enlever. Et plus il éclaire, plus je m'aperçois qu'il y a des choses à ôter. On n'aura jamais fini de changer. Alors, c'est important, ça, de le savoir. Donc, vous savez, il y a des chrétiens, ils se mettent sous un joug de culpabilité parce qu'ils ont des problèmes. Mais ne faites pas ça. Vous avez des problèmes, c'est normal. Au fur et à mesure, vous les réglez avec le Seigneur. Prenez votre temps, Dieu est patient. Mais ne vous culpabilisez pas. Il y en a qui se disent, oh, je devrais faire un zéro faute pour Dieu. Si je l'aimais vraiment, je fais un zéro faute. Non, 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 non. C'est pas vrai. Tu fais du mieux que tu peux. D'accord? Et quelquefois, il y a des échecs. Il y a des chutes. Ce qui compte, c'est de se relever à chaque fois, frères et sœurs. C'est pas d'abord de ne pas faire de chute ou de ne pas être instable. C'est de se relever. Chaque fois que tu tombes, relève-toi. Il est dit dans la parole que 7 fois le juste tombe et... Voilà, je crois que c'est 6 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Hein? Oui, enfin, peu importe. Mais c'est bien dit dans la parole. Alors, ne vous martyrisez pas avec vos péchés, avec vos épreuves, en vous rejetant et en vous disant, je suis incapable pour Dieu. C'est pas vrai. Ta pauvreté te rend capable de suivre Dieu. C'est ta pauvreté qui te rend capable. C'est ta faiblesse. Et Paul s'en vantait. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et il disait, je me glorifierai de ma faiblesse. Donc que personne parmi nous ne se rejette en disant, oh là là, la montagne de péché que j'ai encore dans ma vie, les liens et les mauvaises habitudes, oh là 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 là, je plais pas à Dieu. Ton cœur plaît à Dieu. Tes péchés ne lui plaisent pas, mais ton cœur plaît à Dieu. Alors bien, accroche-toi et suis ce Dieu qui t'aime. Et si plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas rentrer dans la repentance et la solution au sujet de tes péchés. Alors, on rentre dans le sujet. Je vais lire d'abord les versets. Jérémie 17, 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jésus, ainsi que les prophètes, prenaient souvent l'exemple de la nature pour parler au cœur de l'homme. Et c'est vrai que la nature est à l'image de Dieu, de même que nous. Lorsque je regarde les plantes, les fleurs, les animaux, je vois quelque chose de la gloire de Dieu. C'est l'image de Dieu également. C'est lui le Créateur. Et souvent, dans la Bible, les auteurs d'écrits sacrés vont prendre la nature pour parler au cœur de l'homme. C'est ce que Jérémie fait, inspiré par l'Esprit, puisque ce sont des prophéties, hein, ce sont des écrits inspirés. Et Jérémie s'exclame au nom de Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Alors ça va être le thème de mon enseignement de ce matin, vous voyez, hein, on le fait tous ça, hein, on est trop habitués quoi, hein, de ce soir. Un arbre, il est composé de quoi un arbre? Alors il est composé d'abord de racines, qui elles-mêmes sont dans la terre. Ou dans les rochers, vous savez que les pins sont capables de pousser sur des rochers, avec très peu de terre. Les racines s'infiltrent entre les rochers et trouvent de la nourriture, je ne sais pas comment. Mais les pins peuvent, si vous avez une petite colline avec que des cailloux, vous pouvez planter un pin. Alors il y a un sol pierreux. Le mieux, c'est qu'il soit quand même composé de bonne terre, des racines, et puis il y a le tronc. D'accord? Et le tronc se développe en quoi? En branches. Lesquelles vont porter des bourgeons, puis des feuilles. Et certains arbres produisent des fruits. Alors je vous propose ce matin de faire une étude là-dessus. Puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes un arbre. Alors je suis dans une forêt ici. Tu es comme un arbre. La bonne terre, c'est mieux. Même si j'ai dit que les pins peuvent pousser dans un sol très rocailleux, c'est clair que si on donne à chaque arbre la terre il lui faut, il va bien pousser, il va bien se développer. La bonne terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est déjà la nature de Dieu lui-même, hein? C'est le monde spirituel dans lequel je plonge mes racines pour être alimenté. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne met pas ses racines en Dieu. Nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu, là, tout à l'heure. C'était bien ou pas? C'est du bien, hein? Vous savez ce qu'on a fait? On a nagé dans la présence de Dieu. On a fait du crawl. Ça nous a fait du bien. On a nagé dans la présence de Dieu. Au bout d'un moment, on s'est senti porté par l'eau. Par la présence de Dieu. Et ensuite, on a pris des décisions, bien sûr. On s'est dit, oh, 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 mince, c'est pas tellement correct, ça, ce dans quoi je suis là. Oh, 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 oh. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est d'éclairer nos péchés, d'éclairer nos mauvaises attitudes. Alors, la présence de Dieu nous permet, justement, certes, de recevoir la gloire de Dieu en nous, qui nous transfigure, mais aussi de voir ce qui ne va pas. Et par la suite, de nous repentir. Sans repentance, ben, on n'y arrivera pas. Alors la bonne terre, c'est donc cette nature divine, mais c'est aussi notre cœur. Notre cœur. Un cœur honnête et bon. Un cœur qui écoute et porte du fruit. Et c'est important ça. Et la Bible nous dit bien que selon l'état de notre cœur, notre vie ira bien ou mal. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les racines, qu'est-ce que c'est? Et nous en avons tous des racines, mais elles sont invisibles. Nous en avons tous. Et un chrétien qui, lorsqu'il y a une épreuve, tombe par terre sans se relever, n'avait peut-être pas suffisamment de racines. Parce que tomber par terre, on le fait tous. On l'a tous eu fait. Il y a une plante qui s'appelle le roseau, qui a de ses qualités, mes amis, parce que lorsqu'il y a une tempête, le roseau plie, se couche au sol, mais ne casse pas. Tandis que le chêne, qui a des très grosses racines, qui est bien implanté dans le sol, eh bien vous avez vu cette tempête, c'était en combien? 99, il me semble, hein? Cette tempête qui a traversé la France. Dans le parc du château de Versailles, je crois que c'est un tiers des arbres ou plus qui sont tombés. Des arbres centenaires. Des gros arbres. Mais les roseaux, eux, sont restés. Donc, ne commençons pas à nous moquer des petits chrétiens. Des petits chrétiens qui balayent simplement la salle, qui font des petites tâches. Ben oui, mais peut-être que celui-là est solide. Mais que l'autre, le chêne, dans l'église, qui en impose par sa spiritualité, eh, peut-être que vis-à-vis de ce qu'il fait, il n'a pas d'importantes racines. Alors les racines, il y en a de deux sortes, les amis. Il y a des racines traçantes et des racines pivotantes. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder dans la nature. Certaines plantes, comme les cactus, ont des racines traçantes. Ce sont des racines qui effleurent le sol, qui sont à quelques centimètres du sol, et qui vont dans cette direction-là, horizontale. Elles ne vont pas en direction du centre de la terre, elles ne sont pas verticales. Elles poussent en s'étalant. Et quelquefois, d'ailleurs, ça va très loin. Elles poussent en s'étalant, ce sont des racines traçantes. Pourquoi font-elles comme ça? Eh bien, moi, je vais vous dire. C'est pour absorber un maximum d'eau le plus rapidement possible. Et quand il y a une grosse pluie, l'eau sur le sol sec va donc descendre de quelques centimètres et là, ces racines traçantes, elles vont absorber beaucoup d'eau pour ensuite ne plus rien absorber. Et elles peuvent vivre, elles peuvent permettre à la plante de vivre par temps de sécheresse. Le cactus en plus, qu'est-ce qu'il a? Il emmagasine l'eau à l'intérieur de lui-même. Des litres et des litres. Et il est donc capable, comme les chameaux ou les dromadaires, capable d'avoir de l'eau et de transformer de l'eau. Vous savez que les dromadaires sont capables aussi de transformer de l'eau, de faire de l'eau. Je ne sais pas si vous le saviez. De faire de l'eau grâce à des réactions chimiques à l'intérieur de son corps, il peut produire de l'eau dans des moments d'absolue sécheresse. Et c'est parlant spirituellement. Parce que si on a une réserve de Saint-Esprit, si on prie, si on connaît la parole, et qu'on n'est plus nourri, admettons, pendant un temps, on doit être capable de survivre. Par exemple, si on voyage dans un pays étranger, et qu'on n'a pas l'occasion pendant un temps d'aller aux réunions, par exemple, on doit être capable de survivre en se nourrissant d'une nourriture déjà emmagasinée auparavant. Alors mes racines, qu'est-ce que c'est? C'est mon attachement à la parole, au Saint-Esprit. Mon enracinement spirituel, c'est ça. Et je vais parler aussi deuxièmement, parce que j'allais l'oublier, des racines pivotantes. Maintenant, j'ai parlé des racines traçantes. Il y a des arbres, vous ne trouverez pas de racines traçantes chez eux, mais des racines pivotantes. Par exemple, j'ai planté un tamaris devant chez moi, il y a bien longtemps en arrière, j'ai essayé de l'enlever, de tirer dessus. J'ai dû scier. Racines pivotantes. Ce sont des racines qui s'enfoncent comme ça dans le sol, très très profond, à des mètres. Et pourquoi? Eh bien, elles vont chercher de l'eau en permanence dans le sol. En permanence. Tandis que les plantes qui ont des racines traçantes sont capables de vivre sans eau par moment, puis par temps d'averse, elles boivent énormément. Deux sortes de racines. En tant que chrétien, je dis que nous devrions développer ces deux sortes de racines. Quand je suis à la Réunion, je bois. Je reçois du Seigneur. Et je stocke pour la semaine. Mais pendant la semaine, je me nourris profondément dans le sol, de la prière, de la lecture de la parole. Je m'approfondis. Et je réussis à vivre comme ça. Je suis capable de recevoir énormément en peu de temps, et je suis capable de ne rien recevoir par moment, mais de puiser dans mes réserves. Amen. C'est pourquoi il est nécessaire de lire la parole, de passer du temps dans la présence de Dieu, j'allais dire de cultiver le Saint-Esprit aussi. Le matin, tu te lèves, tu commences à chanter. Alléluia, merci Seigneur, tu es présent, et puis tu t'élèves, et puis là tu reçois la présence de Dieu. Ça, c'est un secret. En pensant que Dieu t'aime, tel que tu es. Et puis, c'est ça qui te donne la force pour ta journée. Les chrétiens qui ne le font pas meurent de faim et meurent de soif. Et c'est pas étonnant qu'ils n'aillent pas bien. Le tronc, maintenant. Hein? Vous êtes d'accord? On étudie partie par partie. La bonne terre. Les racines. Maintenant, on va parler du tronc. Le tronc, c'est ce qui permet à un arbre de quoi faire? Ben, d'être suffisamment solide pour développer des branches. S'il y a un tronc qui est trop flexible, qui n'est pas assez rigide et pas assez large, il ne pourra pas développer des grosses branches. Vous avez remarqué que certaines plantes sont comme ça, très fines, et elles ont besoin de quoi? De s'accrocher au mur. Par exemple, les lierres. Les lierres ne pourraient pas pousser sans s'accrocher à quelque chose. Dans tous les cas, faut s'accrocher. Alors le tronc, qui lui ne peut pas s'accrocher, le tronc des arbres, il se développe pour devenir massif, fort. Et c'est là qu'il est capable ensuite de développer des branches. Et plus le tronc est large, plus les branches sont grosses et grandes, et plus il y a de feuilles, et plus il y a de fruits. Excusez-moi, mais il y a des chrétiens maigrichons. Je parle de spiritualité, là. Il y a des chrétiens maigres, qui ne développent pas le tronc. Et Dieu ne peut pas porter de fruits, ni de feuilles. Les branches ne peuvent pas se développer. Et ta maison spirituelle est toute petite. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu ne te développes pas spirituellement. En mettant en pratique la parole. En appliquant tous les principes bibliques. L'autre jour, une sœur est venue à moi. Elle m'a dit, ah, je perds toutes mes heures. Elle travaille pour donner des cours. Hein, dans le privé. Et puis elle a appris qu'une bonne partie de son job tombait à l'eau parce qu'un institut qui l'employait pour donner des cours a choisi quelqu'un d'autre pour l'année suivante. Et cette personne m'a dit, mais c'est horrible ce qui m'arrive, c'est la catastrophe, je vais tout perdre. Je lui ai dit, crois que tu as déjà reçu le remplacement de ça et tu le verras s'accomplir. Alors elle a pris au mot, elle s'est mise à confesser, elle a perdu, c'est vrai, mais qu'elle va retrouver ailleurs. Et elle le confesse tous les jours. Je lui ai dit, si tu ne te développes pas comme ça, si tu ne développes pas ta foi, tu ne pourras pas voir des miracles. Tu ne vas faire que te plaindre. J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas assez de ça. Il y a de l'épreuve dans ma vie, je suis terriblement tourmenté. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu en fais de ça? Tu en fais quoi? Est-ce que tu te muscles grâce à la parole de Dieu? J'ai perdu cela, mais je vais le retrouver parce que Dieu va me l'ordonner. Je suis en mauvaise santé, mais Dieu va me guérir. Je manque d'argent, mais Dieu est ma banque. Il me manque ceci ou cela, mais Dieu va faire cela de beaucoup plus puissant. Est-ce que tu as développé ton tronc, ton identité en Christ? Le tronc, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'identité. L'identité humaine et l'identité en Christ. Est-ce que tu développes ton identité? Est-ce que tu apprends des versets par cœur? Et en tant convenable, Dieu te les redonne, puis tu le confesses. Et tu vis pleinement la parole. Et tu penses que c'est la parole qui a raison et que ce sont tes pensées qui te mentent. C'est important ça. Alors choisissons, frères et sœurs, où nous voulons rester un tout petit chrétien qui appelle tout le temps au secours à la moindre épreuve. Ou alors nous pensons que nous avons tout reçu pleinement et nous l'utilisons. Votre carte d'identité, vous l'utilisez ou pas? Selon le besoin. Et ça vous sert ou pas? Moi ça me sert. Ça m'a bien dépanné par moments. Ton identité en Christ, elle est là pour que tu t'en serves. Tu as péché? Oui, c'est déplorable. Ben, t'es comme moi d'ailleurs. Et on est déplorable par moments. T'as péché? Si tu te repens, Dieu te donne le pardon. Il essuie le tableau avec une éponge mouillée. Pas l'éponge sèche, hein? L'éponge mouillée qui efface définitivement. Il est dit que tes péchés sont enfouis au fond de la mer. Il y a un écriteau où c'est marqué pêche interdite. Dieu efface tes transgressions. Oui, mais je pêche, je pêche. Ne regarde pas là, regarde là, au sang qui a été versé. C'est aussi une clé pour rester dans la victoire, chers amis. Celui qui est dans la victoire, on croit souvent que c'est celui qui ne pêche plus. Ben dites-moi, on pourrait attendre longtemps, hein. Je pourrais attendre longtemps, moi. Et vous aussi, peut-être. Celui qui est dans la victoire, c'est celui, certes, qui s'abstient le plus possible de pécher, nous tous on le fait, mais qui, lorsqu'il s'aperçoit qu'il a péché, se repent authentiquement et va chercher le joker. Le joker, c'est le sang de Christ. J'ai un joker. Vous savez le rôle d'un joker quand on joue aux cartes? Le joker remplace toute carte manquante. Tu as un joker, c'est le sang de Christ. Alors, hop, Seigneur, ton sang me purifie de tout péché, c'est-à-dire de chaque péché. Merci, Seigneur, tu as effacé ma transgression, je me relève et je peux affronter l'adversaire à nouveau. Parce que j'ai la cuirasse de la justice. Éphésiens 6. La cuirasse de la justice. Je suis juste, Seigneur, de ta justice. Arrière, Satan. Et quand Satan revient pour te dire « Oui, mais tes petits péchés là, et puis ça, et puis » Satan peut te dire « Tu commets des péchés volontaires aussi, ceux-là ne seront pas pardonnés par Dieu. » Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des chrétiens qui viennent me voir tout affolés, ils disent « Les péchés involontaires, Dieu va les pardonner, et ça je les fais volontairement, je le reconnais, jamais il me pardonnera. » Ben dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des péchés volontaires et des péchés involontaires. Il y avait des sacrifices qu'il fallait faire pour être ses péchés étaient expiés et pardonnés grâce à certains sacrifices. Même les péchés volontaires, dans la mesure où tu reconnais que tu as été assez balourd et assez bête pour les commettre, et je parle de moi, même ces péchés volontaires, Dieu veut te les pardonner. Il faut que tu fasses des progrès. Je travaille dans le domaine de la dépendance sexuelle, les amis. C'est-à-dire que j'écoute en permanence des personnes qui ont commis des péchés sexuels. C'est devenu mon ministère. Et c'est un honneur pour moi, parce que je vois tellement Dieu agir. Je vois sa grâce et sa miséricorde tous les jours. On me confesse des frasques, on me confesse de ces choses, et je bénis. Et je remercie Dieu pour le courage de ceux et celles qui viennent me le confesser. Je les bénis. Je suis un instrument de grâce. Et je peux dire, comme Jésus, frère, tu es venu te repentir là. Je te le dis, au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Alors la personne, elle pleure. Elle pleure. Et la grâce descend. Si j'étais là menaçant, ouh, c'est pas bien ce que tu as fait, frère. La parole dit que nul impur. Je pourrais faire ça, vous savez, c'est facile, hein, de se prendre pour un juge. Nous ne sommes pas des juges. Je pourrais me prendre pour un juge et être là avec un bâton, ping, ou une règle, te donner des coups sur les mains. C'est stupide. Il nous faut remettre les péchés, il nous faut pardonner les péchés quand la personne est repentante. Et pas rajouter un problème à son problème. Parce que quand tu juges, tu rajoutes un autre problème au problème de la personne. Et elle ne pourra pas trouver la paix par la suite. Tu es responsable de l'éloigner du royaume des cieux. Et ça se fait dans certains milieux. Ça se fait. Nous sommes des instruments de relèvement, mes amis. De restauration. Et non pas d'abaissement et de jugement. Le jugement appartient à Dieu. Mais le relèvement, nous sommes là pour le faire. Alors je dis, allez mon frère, oui mais enfin, tu te rends compte avec ce que j'ai fait, j'ai tout saccagé. Oui, 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 mais je dis, est-ce que c'est pas ça l'histoire biblique? Est-ce que c'est pas ça l'être humain qui saccage toujours tout, qui tue les prophètes et qui rejette toujours Dieu? Je lui dis, tu sais, t'es pas différent des autres, hein. Ah, tu crois, frère? Oui. T'es sûr, frère? Oui, je suis sûr. Alors, je te bénis. T'as confessé ton péché. On va se retéléphoner et tu vas t'en sortir. Et je vois des multitudes de dépendants, si vous saviez tous les péchés. Il y en a qui ont eu 100, 200, 500, 1000 partenaires. Et quand je suis un instrument de relèvement, et qu'ils ils me disent 6 mois plus tard, ça fait 2 mois que j'ai plus péché. Je loue Dieu. Je loue Dieu. Et que 8 mois plus tard, ils me disent, j'ai rechuté, c'est lamentable, je pourrai plus jamais m'en sortir, Dieu me pardonnera jamais cette fois-ci. Là encore, je travaille le cœur de la personne. Je lui dis, écoute, ça fait 2 mois que t'as rien fait, t'as fait une chute. Allez, si t'es d'accord, tu es d'accord que t'as mal fait. Oui, j'ai mal. Allez. Le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et puis ça tient peut-être 6 mois encore, sans rien. Je me dis, voyons, il a fait 2 mois sans péché, maintenant il vient de faire 6 mois. Il y a donc des progrès extraordinaires. Et puis il y a une chute. Ben, je dis, ben allez, viens, on va prier. Et puis il se relève, puis peut-être qu'il va tenir pendant 1 an, et puis après c'est fini. Mais quelquefois, il y a des chrétiens assassins. Des chrétiens assassins. T'es pas chrétien pour comme... Parce que ce sont des chrétiens que j'ai, hein. Quand je vous dis sans partenaire, c'est des chrétiens. Vous allez me dire, c'est pas possible, il peut pas être chrétien. Mais oui, ce sont des chrétiens, mais qui ont encore des dépendances, qui sont mal affermies. Attention, hein. Alors c'est important d'exercer un ministère aussi en leur faveur et de les relever ceux-là. Et après, ils deviennent quoi? Des instruments de relèvement pour les autres. et après ça fait boule de neige et ça peut aller très loin. Voilà. Alors ça c'est mon travail, mais je reviens un petit peu au sujet de l'enseignement. Le tronc, c'est ce que je suis. Tout le monde a compris ? Les racines, c'est ce qui est caché en moi. La bonne terre, c'est Dieu et également mon cœur bon, honnête devant lui, qui reconnaît rapidement son péché, chaque fois qu'il pêche. Alors les branches maintenant. Les branches, ben je dirais que c'est le développement du tronc, vous êtes d'accord ? C'est le développement du tronc. C'est ce que je fais, les branches. C'est mon activité. Mon activité qui émane de ce que je suis. Car n'est-ce pas, frères et sœurs, il nous faut d'abord être avant de faire. Nous avons été créés pour trois choses, chacun d'entre nous, être, faire et entrer en relation. Retenez bien. Être, faire et entrer en relation. Si je ne suis pas, si je me déteste, si je me développe pas dans ce que je suis, je ne pourrai pas bien faire. Et je ne pourrai pas non plus avoir de bonnes relations avec les autres parce que je me hais. Et donc je suis amer, je suis mauvais, je suis négatif. Et ma relation avec les autres sera altérée. Et dans ce que je fais, il n'y aura pas d'assurance. Il n'y aura pas de goût au travail. Ça ne va pas aller bien non plus. Ce monde soigne quoi ? Ce qu'il est ? Non. Ce qu'il fait. Et c'est un piège. Et ce monde ne veut pas être. Il se fuit. Et ils sont tous en TGV. Ou en avion. Ils vont tous trop vite. Ils n'aperçoivent pas, comme dit la parole, ce qui les fait tomber. Alors mes branches, c'est ce que je vais développer. Je développe plein de choses, plein de talents, plein de choses. À la fois avec l'aide de Dieu, et puis avec l'aide de mes connaissances, de mes aptitudes, hein, parce qu'il y en a qui spiritualisent tout. Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Il y a mes capacités, et il y a Dieu qui les utilise et les multiplie pour lui-même. Restons bien les pieds sur la terre. Et on peut avoir la tête dans le ciel. Mais pas les pieds, pas le corps tout entier. C'est une image que je prends. Les branches, c'est également ma vision, voyez ? J'ai une vision. Donc, par exemple, une église a des branches, elle a une vision. Elle se dit, voyons, on en est là, ça fait tant de temps qu'on existe, projetons-nous dans 10 ans, eh bien normalement on aura besoin de ça, ça et ça. Dieu veut nous faire faire ça, ça, ça. Donc étendons nos branches comme ceci et comme cela. Et là, on prépare à l'avance, des années à l'avance. Et en tant que chrétien individuel, on a une vision aussi. Vision pour les célibataires de se marier, n'est-ce pas ? Et quand on est marié, vision de bien nous entendre avec notre conjoint. Vision d'avoir des enfants et de faire prospérer notre famille. Nous devons tous avoir une vision. Nous devons tous essayer de nous projeter. Mais ça ne doit pas devenir notre moyen de survie. Ça serait une erreur. Il nous faut d'abord être. Donc faire un retour sur nous-mêmes régulièrement. Nous cultiver, nous travailler. Comme la terre. Quand l'agriculteur veut semer dans son champ, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe d'abord la charrue, puis il passe un rouleau aussi, pour écraser les mottes. Et puis ensuite il sème. Et je vous ferai remarquer que quand il sème, il perd tout ce qu'il a. Je vais le répéter. Quand un semeur sème, il perd tout ce qu'il a. Toutes les graines qui étaient dans un grenier, il les perd. Et un chrétien qui n'accepte pas de perdre ce qu'il a, c'est un chrétien qui ne va pas se multiplier et qui ne va pas voir la grâce de Dieu agir dans sa vie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il garde. À quoi ça me sert d'avoir des sacs de semences pendant 20 ans? Ils sont beaux, mes sacs de semences. Ah ben oui, il y a plein de mites dans les sacs. Et puis tiens, les souris sont allées. Ah ben, ça a été le festin des souris, tiens. Au moins, t'as servi à quelque chose, frère. Il y a des chrétiens comme ça. Les dons spirituels, tout ce qu'ils ont reçu, ils le stockent pour eux. Moi, je prophétise, hein. Ouais, je prophétise, hein. Alors, le dimanche, on entend la prophétie. Hein. Je prophétise. Mais attention. Attention. Non. Merci, Seigneur. Tu m'as donné d'être un petit canal, et quand tu veux, tu peux prophétiser au travers de moi. Mais je donne ce don pour l'Église. Je donne ce don pour que les autres soient bénis, pas moi. Mais il y en a qui profitent. Puis alors, ils se gargarisent avec leurs dons. Ils se sentent bien. Hein. Je. Si je vous le dis, c'est que je suis passé par là. Sinon, je vous le dirai pas. C'est parce que je connais ça. Quand on a des dons, c'est pour donner. Le semeur se sépare de tout. Et pendant des mois, il ne voit plus rien. Si, il voit les oiseaux qui viennent picorer. Oui, c'est vrai. Quelquefois, c'est l'adversaire qui vient picorer dans notre champ. Il voit des oiseaux. Et vous savez ce qu'il a, le semeur, le cultivateur? Il a la foi. La foi que ce geste-là qu'il a fait, et qui n'a pas duré longtemps, il y avait du vent, hein. Il a la foi que ce geste donne la vie. Amen. Quand tu sèmes, quand tu évangélises, quand tu enseignes, quand tu pries, quand tu jeûnes, ça portera du fruit. Mais si tu commences à te regarder exclusivement le nombril, là, hein, nous en avons tous un, hein, ici, le nombril. C'est notre ancien cordon ombilical. Hein? C'est la trace de l'ancien cordon ombilical. Alors, il se regarde le nombril. Oh, j'ai pas assez de lait. J'ai pas assez de ceci. J'ai pas assez de grâce. J'ai pas assez de guérison. Il regarde plutôt ce qu'ils n'ont pas, plutôt que de voir ce qu'ils ont, et qui n'est pas chez eux, mais en Dieu. Alors, il y a des chrétiens qui ont compris. Ils arrêtent de mettre la main ici, et puis ils font comme ça. Voilà. Seigneur. Et ils prêtent. Et puis il donne de l'autre main. Amen. Nous sommes appelés à donner. Donne et tu recevras. C'est pas dit, reçois et tu donneras. Madame, comme disent certains, dame. C'est pas dit, reçois et tu donneras. Il est dit, donne, c'est-à-dire sacrifie. Fais un acte de foi, sépare-toi de ce que tu as, et tu vas y perdre. Et tu recevras. Ce que je donne déclenche ce que Dieu donne. Si je ne donne rien, je ne veux pas dire que je reçois rien, c'est faux. Hein, parce que je suis son enfant à Dieu, je suis l'enfant de Dieu, il me donne quand même, mais bon, c'est un tout petit déjeuner, quoi. Hein. C'est un petit repas, il y a juste le hors-d'œuvre. Alors si nous sommes égoïstes, nous gardons les grâces que Dieu nous a données pour nous, et ça pourrit. Comme la manne pourrissait, si on la prenait pour plusieurs jours, sauf le jour du sabbat. On en prenait la veille, et ça durait 2 jours, et ça pourrissait pas. Et c'était un ordre de Dieu. Mais il fallait prendre chaque jour. Si on prenait pour 2 jours, c'était périmé. Date limite, date de péremption. C'était marqué sur la manne, hein, c'est une boutade. Il y avait un tampon. C'est important, frères et sœurs, d'avoir compris cela. Il faut que tu prennes un risque. Il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu diminues. Et le résultat, ça va être quoi? Une perte. Et Jésus a dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera, la gagnera. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète encore, tant pis, certains chrétiens ne reçoivent pas vraiment beaucoup de Dieu, c'est parce qu'ils s'accrochent à ce qu'ils ont déjà reçu. Et ils vont enterrer le talent dans la terre. On peut penser que c'est bien. Le serviteur qui a pris son talent et qui est allé le cacher dans la terre, dans un sac plastique pour pas que ça rouille, on peut se dire... Mais il a voulu protéger Dieu et les choses de Dieu. Il a prié dessus, vous savez, il a imposé les mains à son talent. Hein? Tous les jours, il allait là, Oh Seigneur, merci pour ce talent qui est toujours vivant. Amen. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? Ils se sont séparés de leurs talents pour les donner aux... À qui? Au banquier et à l'agent. Au banquier. Vous comprenez ça? Là encore, ils ont tout perdu en un jour. Quand tu donnes ton argent au banquier, je suis désolé, mais il est plus là ton argent. Heureusement que tu as un papier, ton relevé de banque qui fait foi qu'il est toujours à toi l'argent. Mais c'est par la foi que tu le crois. C'est parce qu'il y a la feuille. Parce que derrière le banquier, ben, il est bien content, lui, il peut investir derrière. Puis il le fait d'ailleurs. Puis il se fait de l'argent. C'est son métier, je ne critique pas. C'est légal. Et quelquefois, peut-être qu'il en fait beaucoup de l'argent. Et quelquefois sur notre dos. Et vous connaissez l'adage qu'on ne prête qu'aux riches. Ah, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je veux plus faire très très long, parce que j'aimerais qu'on passe un temps dans la prière. Mais vous savez, on vit dans un monde qui ne donne plus. C'est un monde qui prend. Si tu regardes toutes les publicités à la télé, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Même maintenant, pendant les infos, vous avez droit à des coupures de 3, 4, 5 minutes de publicité. C'est un monde qui te lave le cerveau et qui te dit quoi? Prends, jouis, achète, prends pour toi. S'il y avait des publicités pour Jésus, ça serait l'inverse. Les publicités diraient, donne, 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 c'est par toi, donne, renonce, donne, et tu trouveras le bonheur. Alors vous savez ce que ça donne? Pardon, si je pouvais avoir un tout petit peu d'eau, ça serait gentil. Vous savez ce que ça donne, ce genre de choses? Ça donne des chrétiens qui se laissent également influencer par le monde. Ils se laissent influencer par le monde et ils ne donnent même plus. Alors ils veulent leur écran plasma, ils veulent les derniers jeux vidéo pour leurs enfants, la dernière voiture, et puis l'œuvre de Dieu pendant ce temps-là, quelquefois, elle se meurt. Elle n'a pas assez de fonds. Vous savez pourquoi on manque d'argent quand on veut travailler pour le Seigneur? Vous savez pourquoi on en manque? Je ne vous le dis pas, vous pouvez le trouver tout seul. Est-ce que l'argent ne serait plus là? Ah, c'est curieux. Les années passent, il y a de moins en moins d'argent. Que se passe-t-il, Seigneur? T'as réduit les fonds. Eh non, c'est pas le Seigneur qui a réduit les fonds. Merci infiniment. C'est pas du tout le Seigneur qui a réduit les fonds. C'est pas vrai. Il n'a pas fait ça, du tout. Ce sont les chrétiens qui ont mis une vis à leur tirelire. Ils ont perdu la clé. Ils savent plus casser leur tirelire. Nous manquons d'argent. Nous manquons de gens consacrés. Ça fait cruellement défaut. Il y a des missions en Afrique qui ferment parce que plus personne ne veut y travailler. Des dispensaires qui ferment parce qu'il n'y a pas de chrétiens en Europe. Il se met à genoux pour dire, allez, ben j'irai, je donne 2 ans de ma vie et je vais tenir ce dispensaire. Et distribuer les médicaments, il y aura un médecin avec moi, je vais aider. Et il y a beaucoup d'œuvres qui souffrent en ce moment. C'est pas de la faute de Dieu. C'est de ma faute. C'est de notre faute. Parce que nous ne mettons pas les priorités là où il faut. Nous voulons un évangile qui nous fait du bien. Un évangile avec lequel nous nous gargarisons. Vous pouvez tous gargariser, vous l'avez fait, hein? Alors on se gargarise avec la grâce de Dieu. Oh, Dieu m'a béni là. Ça y est. Ah, je sens sa présence. Ça y est, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah oui, je crois que le Seigneur dit oui, c'est bon, hein. C'est bon, j'ai compris. Dis donc, je t'ai pas donné pour toi. D'abord, je t'ai donné pour que tu distribues. C'est pour ça que je te donne avec autant de puissance. Et on garde. qu'on veut se faire du bien avec du plaisir spirituel. Et c'est un piège. Et les gens courent après tel prédicateur, tel autre. Ils font 1000 kilomètres pour se mettre à genoux devant un prédicateur qu'ils pensent un peu magique, mais ils vont pas se mettre à genoux dans leur église locale devant le pasteur local. Ils vont le faire devant un grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Le petit homme de Dieu. Nous sommes des petits hommes de Dieu. Amen. Petits hommes de Dieu. Et le jour où on dira de nous que nous sommes des grands hommes de Dieu et où nous laisserons faire cette chose. Parce que les gens peuvent le dire, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais si nous nous laissons faire par ça, nous, les hommes de Dieu, c'est notre fin. Nous sommes finis. Nous sommes tombés dans l'orgueil. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il y a un grand Dieu dans des petits hommes. Et il y a des petits hommes obéissants. Ils savent attirer une grande grâce de Dieu. Amen. Et qui ont compris qu'il faut donner, donner, donner. Ils donnent et ils reçoivent. Pourquoi? Pour eux, bien sûr, un petit peu, mais surtout pour les autres. Le jour où tu commenceras à te consacrer non plus pour toi, et ton bonheur et ton plaisir personnel, et ta religion du plaisir spirituel, le jour où tu arrêteras de faire ça, et où tu te consacreras pour Dieu et pour les autres, tu vas être hyper béni. Parce que Dieu va te donner en abondance. Tu sais pourquoi il va te donner en abondance? Ben parce que il va vouloir que tu nourrisses les foules. Donc il va te donner beaucoup plus que pour toi. Ben, il y en a qui disent, c'est pas normal, il est béni celui-là. Ben oui, mais tu sais pas le temps qui passe à genoux en disant, Seigneur, non pas moi, mais les autres. Seigneur, bénis tous ceux qui souffrent. Moi, j'ai passé des mois à pleurer au début, avant la fondation de l'association Osez en parler, dont je m'occupe. J'ai passé des mois à pleurer. Je prenais la carte de France, puis j'imposais les mains à toutes les villes. Et je m'adressais aux dépendants sexuels, homosexuels, bisexuels, prostitués, pornodépendants. Et je leur disais, soyez bénis, sortez de votre cachette, Dieu vous aime. Et j'ai prophétisé sur les villes. Et j'ai pleuré pendant des mois. Et maintenant, je vois la récolte. Mais elle n'est pas à moi. Je bénis Dieu. Que Dieu m'utilise pour ça. C'est un honneur. Pour les plus pécheurs, les plus vils, les rejetés. C'est un honneur. Je reçois des courriers, des mails. Voilà, je suis prostituée. Des garçons, des hommes. Je suis prostituée. Me prostitue. Voilà, puis j'essaie de faire quelque chose. Jésus s'adressait aux plus pauvres intérieurement. Qui voudra le faire? Que ce soit dans le domaine de la sexualité ou dans d'autres domaines. Nos églises seraient-elles des lieux aseptisés? Où on ne commet plus de péché, le pécheur ne peut plus rentrer parce qu'il se sent tellement hors norme qu'il ne rentre plus. L'église, c'est le lieu des pécheurs. C'est le lieu où je vais me repentir avant de prendre la Sainte-Seine. J'ai commis des péchés dans la semaine, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Et puis je vais prendre la scène. Il y a des églises où la scène est réservée qu'à ceux qui ne commettent jamais de péché. Je pense qu'on n'a rien compris là. Jésus est venu bénir des malades. Donc l'église c'est le lieu où un pécheur peut venir sans être inquiété, sans être torturé par les autres. Et vous savez, je m'occupe beaucoup des personnes homosexuelles. Quand elles viennent dans des églises, quelquefois, elles tiennent pas une ou deux réunions. Elles sont obligées de repartir au galop. Parce qu'il y a toujours le brave frère ou la brave sœur qui, au bout d'une réunion ou deux, dit « Il est écrit dans la parole que nul impur n'entrera. » C'est comme ça qu'on fait. On balaye. Le problème, c'est qu'on balaye pas les péchés, mais on balaye les pécheurs, là. Alors je vous en supplie, si vous voyez quelqu'un et que vous devinez son péché ou son problème, que ce soit ça ou autre chose, priez pour la personne, que ses yeux s'ouvrent. Ça peut attendre 6 mois, ne dites rien, si ce n'est que je t'aime. Oh, bienvenue, quelle joie que tu es parmi nous. Oh, on m'accepte ici. Ils ont l'air bien ces chrétiens. Et là l'église grandit. Et les plus vils des pécheurs viendront. Sinon, ils repartiront dans des associations prétendument chrétiennes. Et on pratique le péché à haute dose, parce que c'est autorisé. Je termine par les feuilles et les fruits. Je vais aller très vite. Je vais pas vous prendre trop de temps. Les feuilles et les fruits. J'ai dit que les branches, c'est ce que je fais, c'est ma vision, mon développement personnel. Les feuilles, ben ce sont les dons de l'esprit, par exemple. Voyez tous ces petits dons, dons de secourir, dons de gouverner. Les 9 dons spirituels. Tout ce qui peut guérir les autres, fortifier les autres. Les feuilles, c'est ce que je manifeste. Et puis les fruits, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le résultat du tout. Et quand on voit une pomme et qu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait ? Faites le mouvement avec vos dents là. Am. Rentre dans la joie de ton maître. Hop. Il y en a qui ont compris. Les fruits, le temps des cerises, par exemple. Hein ? C'est bon les cerises ? Puis quand vous mangez une bonne tarte au bigaro, là, hein. C'est pas bon, ça? Avec de la crème pâtissière. Les fruits. En Afrique, il y a plein de fruits qu'on connaît pas ici. J'en ai goûté tous ces fruits-là. Je disais, mais Seigneur, t'es incroyable, quoi. Chaque région a ses fruits, chaque continent. On n'aura jamais fini de connaître. Et les fleurs, selon les altitudes, dans les hauts sommets, ce sont différentes fleurs qui supportent l'altitude, qui se sont adaptées. Alors mon frère, ma sœur, Dieu va adapter des choses pour toi. Lui qui a créé des fleurs pour chaque altitude, des fruits selon les nations. Lui qui a créé des plantes différentes, des arbres différents, des animaux différents. Selon les régions. Lui saura bénir ta vie d'une manière particulière et te donner exactement ce dont tu as besoin. Ne perds jamais la vision que c'est pour redonner ailleurs. Ne perds jamais cette vision. Oui, mais j'ai déjà donné. Oui, mais depuis t'as reçu. Hein. Oui, mais j'ai donné, hein, il y a 10 ans. Je me suis donné. Je me suis même allongé au sol, en disant, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Mais il y a 10 ans, hein. Excuse-moi, mais depuis, t'es devenu desséché, hein. Les fruits secs, ça se garde longtemps. Il faut que tu réapprennes à te donner fraîchement. Parlons de fraîcheur, d'accord? Pour terminer, ça va être ma conclusion, hein. On a tous chaud, hein. La fraîcheur de se redonner. Seigneur, je reconnais que je me suis donné il y a 10 ans, mais que depuis, j'ai tout repris. Pas forcément des péchés, d'ailleurs. Mais j'ai pris des grâces. Je me suis emparé de ce qui était à toi, Seigneur, et je le garde pour moi. Et je m'assieds dessus. C'est pas ça que Dieu t'a demandé. Il veut te demander, qu'as-tu à me donner maintenant, là, aujourd'hui? Quelle est l'épaisseur du tronc de l'arbre? Comment sont tes branches? Comment sont les feuilles? Des feuilles desséchées? C'est des feuilles mortes. Ah ben j'en ai des feuilles, Seigneur. Regarde, j'ai tout un livre. Je les ai plastifiées, mes feuilles. C'est des feuilles mortes. Oui, t'as un tronc, et on donne un coup de pied dedans, crac, tombe par terre. Et tes branches, c'est la même chose. Puis t'as plus de fruits. Frères et sœurs, j'aurais pu parler encore longtemps, j'aurais pu parler aussi des 4 saisons. Je n'ai pas le temps. Nous passons tous par des automnes, des hivers, des printemps et des étés spirituels. Comme la nature. Même chose. Je vous dis juste une chose là-dessus. Savez-vous que les bourgeons sont déjà là à la fin de l'été? Les bourgeons pour l'année suivante? Vous saviez qu'à la fin de l'été, ils sont déjà sur les arbres? Vous ne le saviez pas? Ils poussent à la fin de l'été et à l'autre, au début de l'automne. Et ils sont revêtus d'une protection. Vous avez déjà vu ça, hein? C'est même un peu comme de la ouate, je veux dire, c'est une protection contre le gel. Et au printemps, vous vous dites, oh, les bourgeons viennent de sortir. Oui, ils sont sortis, mais ils étaient là déjà à la fin de l'été. Je termine juste par là en disant que si tu es en hiver en ce moment, sache que tu portes en toi déjà des bourgeons qui vont éclore au printemps. Ne te dis pas j'ai froid, j'ai plus de feuilles, j'ai plus rien, c'est la dèche. Sache que tu as déjà en toi des choses qui vont éclore après. Une œuvre passe par les quatre saisons. Une église. L'hiver, c'est le dépouillement. Total. Le printemps, c'est le renouveau. L'été, c'est le développement. L'automne, c'est le renoncement. Avant l'hiver, qui représente la mort totale à soi-même. Nous allons prier ensemble? Vous êtes d'accord? Ah, voilà une église qui bouge là. Non? Moi je trouve. Il y a des oui, hein? C'est ça qui compte. C'est pas d'être des gens parfaits. C'est de vouloir tendre à la perfection. Mais notre pauvreté, vous savez, on la portera probablement toujours jusqu'à notre mort. Et tant mieux. Parce que ça nous empêchera d'être orgueilleux. Amen. Fermons nos yeux. Qu'est-ce que tu sacrifies dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu acceptes de sacrifier? Ne pense pas à ce que tu as déjà sacrifié. Pense à l'avenir, au présent et à l'avenir. Qu'est-ce que tu acceptes de sacrifier encore? Est-ce que tu acceptes de perdre? De renoncer? Dans quel état est ta vie? Des petites racines? Une mauvaise terre? Un tronc creux à l'intérieur? Des branches qui cassent? Des feuilles mortes? Des fruits inexistants ou pourris ou véreux? Ou bien alors chaque année qui passe, tu t'approfondis, tu deviens plus fort en Christ. Les années passent et tu peux te dire, ah, je suis de plus en plus pauvre, mais je suis de plus en plus riche pour Dieu. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur toi, comme on s'appuierait contre un chêne, pour se reposer? Par tant d'épreuves, est-ce que tu casses et que tu disparais? Ou est-ce que tu casses et tu te laisses réparer aussitôt? Et tu grandis. Parce que tu apprends comment réparer les autres d'ailleurs. Si tu te laisses réparer, tu sauras être un instrument de réparation pour les autres. Seigneur, nous nous humilions et moi le premier pour ce que nous ne sacrifions pas. Pour le premier amour que nous avons perdu. Nous nous humilions ici ce soir. De nous sentir quelquefois gras et gros spirituellement, alors que nous avons encore tout à apprendre. Nous voulons nous délester de l'égoïsme, de la propre justice, de l'orgueil, pour prendre à nouveau des risques et vivre l'aventure de la foi. Alors aide-nous, Seigneur, maintenant. Je te demande de poser ta main sur ceux et celles parmi nous qui ont compris quelque chose pendant cet enseignement. Aide-les à faire des progrès, Seigneur. Je vais faire un tout petit appel qui ne sera pas pour de la parade. Si tu as vraiment envie de redonner ta vie au Seigneur, malgré que tu es peut-être chrétien depuis 20 ans ou 30 ans, et envie de redonner. Si Dieu t'appelle à cela ce soir, tu peux te lever à ta place. Dans un esprit de consécration. Seigneur, je t'amène mes débris. Mes péchés. Je suis vraiment pas comme il faut. Mais ce que j'ai et ce que je n'ai pas, je te le donne. Sers-toi de moi. Alors celui ou celle qui veut faire cela ce soir, il se lèvera à sa place. Et depuis le micro, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous aide dans ce nouveau chemin. En vous levant, vous pouvez dire, je te donne toute ma misère. Je suis vraiment pas quelqu'un de bien, je te préviens. Dites-le au Seigneur, je suis pas quelqu'un de bien. T'auras du fil à retordre avec moi. Ça sera pas facile, je vais te causer des misères. Vous lui dites, alors tu vas m'aider, Seigneur. Et votre sacrifice va plaire au Seigneur maintenant. Tu ne te sens pas comme il faut, bienvenue au club. Dieu t'aime tel que tu es. Et vous pouvez poser votre main sur votre cœur maintenant et dire, Seigneur, tel que je suis, je te redonne mon cœur. Tel que je suis, je te redonne mon cœur. Il est en mauvais état. Je m'en repens, Seigneur. Mais je me suis levé. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Prends-moi à nouveau avec toi. Et le Père va courir vers toi. Il court vers toi. Et il te serre dans ses bras maintenant. Mon enfant que j'avais perdu et que j'ai retrouvé, viens dans mes bras. Et recevez maintenant l'onction de Dieu. Vous qui librement avez décidé de vous redonner, recevez l'onction et la force de Dieu maintenant pour aller plus loin dans votre vie spirituelle. Développez vos racines, développez le tronc. Développez les branches, les feuilles, les fruits. Allez de l'avant. Et plus vous êtes faible et incapable, plus vous allez proclamer qu'en Christ, vous êtes fort et capable. Amen. Vous pouvez le dire maintenant. Seigneur, en toi, je suis fort et capable. Et maintenant, vous prenez la victoire. Tu m'aideras, Seigneur, vis-à-vis de mes péchés. Tu m'aideras là maintenant. Dites au Seigneur, tu vas m'aider pour ça et ça. Vous murmurez à voix basse, il n'y a que Dieu qui entend. Tu vas m'aider pour ça, tu vas m'aider pour ma femme, par exemple. Il y a peut-être quoi un problème de couple. Tu vas m'aider pour mon mari, que je supporte plus. Et qui vient plus aux réunions, qui vient plus au culte. Tu vas m'aider pour mes enfants. Il y en a peut-être un qui se drogue. Tu vas m'aider. Proclamez que Dieu va vous aider. Ne regardez pas la montagne, mais regardez au-dessus de la montagne, la main de Dieu qui descend. Pour ôter la montagne. Nous prenons maintenant la victoire au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les montagnes qui sont dans la vie de mes frères et sœurs de se jeter dans la mer maintenant. Au nom de Jésus. Toute montagne qui serait un leurre, qui serait un fardeau de l'adversaire, qui serait là pour freiner, qu'elle se jette maintenant dans la mer. Je veux vous délier maintenant au nom de Jésus de vos liens. Je les brise au nom de Jésus. Et je vous renvoie libre maintenant. Si vous avez commis des péchés, demandez pardon maintenant à Dieu. Et maintenant, je vous le dis, je te le dis, tes péchés sont pardonnés. Reçois le pardon dans ton cœur. Soyez libérés. Seigneur, s'il y a des maladies, maintenant, guéris les malades. Guéris les malades. Touche les parties malades. Les maux de dos, les migraines. Tout ce qui accable les chrétiens, nous le chassons maintenant. Nous te remercions, Seigneur, de nous réapprendre à vivre avec toi. Prenez des engagements maintenant, notamment la prière, la lecture de la parole chaque jour, la proclamation de la victoire, ça compte. Si tu proclames ta défaite, tu n'as rien compris. Proclame la victoire. Je vaincrai parce que Christ est avec moi. C'est ça la vérité. Merci Jésus de nous bénir tous sans exception. Tous dans cette salle. Tu mets une onction sur nous maintenant, une portion de ton esprit. Nous voulons nous consacrer. Je te prie pour cette église. Vous pouvez vous rasseoir. Je te prie pour cette église qui développe sa vision. Multiplie maintenant. Ils ont fait un acte de foi retentissant. Multiplie maintenant, Seigneur. Là où ils ont donné, qu'ils reçoivent. Dès maintenant. Qu'une onction de multiplication dévore leur rang, Seigneur, d'une bonne manière. une onction de multiplication des âmes, une onction de multiplication financière, multiplication au niveau des délivrances, des guérisons, de l'annonce de la parole, de l'enseignement. Tu multiplies dans tous les domaines, Seigneur, parce qu'ils ont compris le taux de croissance qu'ils vont avoir. Honore leur foi, Seigneur. Pose ta main sur les responsables, hommes et femmes. Pose ta main maintenant. Donne-leur l'assurance de la foi. Et honore leur foi, Seigneur, je t'en remercie. Tu es merveilleux, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen.